Chapitre 54. Château du Nid d'Hirondelle, péninsule de Crimée, Russie. Micha était toujours allongée dans le lit à baldaquin. Elle aurait adoré s'y reposer toute la journée, telle une princesse paresseuse enroulée dans les draps de soie. S'il n'y avait pas eu la plaie non cicatrisée qui lui écartelait le cœur, s'il n'y avait pas eu l'écheveau de perfusion avec lesquels elle avait dû se téléporter, si elle n'avait pas dû obéir aux consignes strictes de Valeria Everianov, interdiction formelle de bouger. Tout juste pouvait-elle se tourner vers les fenêtres et admirer, par les vitraux teintés, les tours de ce château de conte de fées. Le nid d'Hirondelle, avait expliqué Galiléo Nemrod, avait été bâti tel un pied de nez près de Yalta, en Crimée, là où les puissances étaient partagées le monde de jadis. L'élégant château, posé en équilibre sur la falaise de l'Aurore, surplombait la mer Noire. Le moindre coup de vent paraissait pouvoir le faire basculer. Il était pourtant là depuis 2 siècles, blanc comme neige, avec ses balcons suspendus sur le vide, ses tourelles de poupées, ses meurtrières d'opérettes. Il ne fallait pas se fier à ce décor de vieux dessins animés de Disney. Le château choisi par Galiléo Nemrod était un des lieux les plus sécurisés au monde. Personne ne pouvait s'y téléporter sans son autorisation personnelle. Un repère, un nid d'aigle plus que d'hirondelle. Galiléo Nemrod observait par le vitrail le bleu infini de la mer. Elle ne semblait avoir été baptisée « mer noire » que pour accentuer le contraste avec la falaise blanche et les murs d'albâtre du château perché. Le président tournait régulièrement la tête pour consulter la grande horloge, dont le cadran compliqué en forme d'astrolabe reposait sur un pied de chêne et de verre, ouvert sur le mouvement régulier d'un balancier de cuivre. Micha se redressa autant qu'elle le put. Elle eut l'impression que les fils de son cœur recousu allaient tous céder. Mais elle résista et coinça son dos sur un oreiller. La perfusion accrochée à son bras droit injectait goutte après goutte une drogue dans son sang. Morphine, fentanyl, nalbuphine. Pour contenir la douleur, pour engourdir ses muscles, pour engourdir son esprit aussi. Sur ce point, au moins, c'était raté. Jamais la jeune Coréenne n'avait eu la sensation d'être aussi lucide. Elle attrapa le regard du président. « Je ne suis pas en convalescence ici, n'est-ce pas? Je suis en prison. Vous ne me laisserez pas sortir. J'en sais trop. » Nemrod se détourna, se concentra longuement sur le mouvement du balancier de cuivre. 10h55. « Dans une heure, tout sera terminé, capitaine Kim. »« Non, vous n'en savez pas trop. »« Vous n'en savez pas davantage que les autres, ou pas beaucoup plus. »« Mais vous êtes plus futé. »« Vous avez deviné le principal, et le reste, vous finirez par le comprendre. »« Alors il est plus simple de tout vous expliquer. »« Et ensuite ?»« Ensuite, ce sera à vous de décider. »« Vous êtes une excellente policière, la meilleure peut-être. » Vous déciderez de continuer de servir la Constitution de 2058, ou d'y renoncer. Le goutte à goutte dans le bras de Micha semblait réglé sur le tic-tac du balancier, égrenant le temps dans le même compte à rebours. Elle frissonna. « Si j'y renonce, je deviendrai une sorte de prisonnier politique, une de ces assignés ?» Nemrod, avant de répondre, saisit un tisonnier et agita les cendres dans la vaste cheminée de marbre blanc.
« En quelque sorte, capitaine Kim. Même si vous êtes bien moins dangereuse qu'eux. Je sais que je n'ai aucune chance de convaincre le commandant Akinis, encore moins notre regretté lieutenant Diop. Mais vous, je l'espère. Vous êtes attaché à ce monde dans lequel vous êtes né, ce monde de liberté. Elle a un prix, capitaine. Tout a un prix.
Je vous écoute. » Elle se força à sourire. « Je sens que la facture va être salée. »
Nemrod sourit à son tour. Les bûches dans la cheminée se remirent à flamber.
« Pas tant que cela. »
Il observa le reflet des flammes danser dans les vitraux et s'approcha lentement des fenêtres, comme pour traverser le feu et plonger dans la mer Noire, 50 mètres plus bas.
« La nouvelle Babel, capitaine. Ce grand bâtiment construit sur l'île la plus isolée du monde, Tristan d'Acunha n'a jamais été destiné à abriter les 10 milliards d'habitants de la planète. Ce grand bâtiment a une autre vocation. La nouvelle Babel est en réalité
Il marqua une longue respiration. Une prison. La plus grande et la plus isolée de toutes les prisons. Savez-vous, capitaine, que la terre la plus proche de Tristan d'Acunha est Sainte-Hélène, l'île où l'on exila jadis Napoléon? Personne n'osa tuer une telle personnalité. Alors on dut l'éloigner autant qu'on le pouvait du reste de l'humanité pour qu'il ne puisse plus nuire au repos du monde. C'est l'expression qui fut employée à l'époque. L'empêcher de nuire au repos du monde. Je la reprendrai volontiers. Mon constat est simple, capitaine Kim, très simple. Les assignés, ces prisonniers politiques, prenant le retour aux États et aux frontières, à la reconnaissance des nationalismes, à l'expression des langues anciennes ou à la pratique des religions, constituent une menace pour notre monde de liberté. Je ne vous refais pas le couplet. Vous êtes assez intelligente pour le comprendre. Leurs idées sont des braises qui peuvent à n'importe quel instant provoquer un nouvel incendie. La solution la plus raisonnable aurait été d'emprisonner tous les ennemis de la liberté. Le Congrès mondial, sur ce point, ne m'a jamais suivi. Il s'est contenté de les exiler en secret, en semi-liberté, dans un territoire suffisamment vaste pour que leur présence soit ignorée de presque tous. Le plus étendu de tous les lieux tabous. Mais ce n'était qu'une solution provisoire. Un jour ou l'autre, leur existence serait dévoilée. Pire que cela, même. Rien ne les empêchait réellement de sortir des frontières du Kazakhstan, même sans TPC, même surveillés par les soldats de la garde internationale. Une évasion était possible, inévitable à long terme. Il fallait trancher. De façon énergique et efficace. C'est-à-dire enfermer tous ceux qui s'opposent, menacent, violent la Constitution mondiale de 2058. Cela n'a rien d'une dictature, capitaine. Toute société, toute démocratie s'est toujours protégée de ses ennemis, sans scrupule, avec justice, sans rien cacher à ses citoyens. Pour cela, deux conditions devaient être réunies. Un motif, d'abord. Il fallait prouver la dangerosité des assignés. Sans cela, le Congrès mondial ne m'aurait jamais suivi. Et un moyen, ensuite. La téléportation me le fournissait. Le rêve de tout dirigeant depuis la nuit des temps, pouvoir se débarrasser de ses opposants, des ennemis de l'intérieur, en les déportant. Appuyer sur un bouton et hop, celui qui constitue une menace pour la société se retrouve envoyé ailleurs pour réfléchir quelques jours, quelques mois, quelques années.
Nemrod se pencha vers la fenêtre, à l'opposé de la cheminée. En miroir dans le vitrail, le feu paraissait le dévorer. Sans le faire souffrir, sans même le brûler, tel un diable surgissant des flammes.
« Pitchy boy !» murmura Misha.
Le président se retourna.
« Exact, capitaine Kim. Pitchy boy. Un moyen radical à n'utiliser, bien entendu, que pour se protéger des terroristes, en aucun cas sur de simples citoyens. Mais là encore, ni les députés du Congrès mondial, ni l'opinion publique n'y étaient prêts. » Déporter quelqu'un contre son gré, même un criminel, est contraire au fameux quatrième article de la Constitution de 2058. Pour l'outrepasser, il fallait des conditions exceptionnelles, un état d'urgence. Il fallait aussi, petit détail technique, que les ennemis potentiels, ces assignés, aient accroché à leur poignet cet objet contre lequel ils combattent, un TPC. Vous avez compris, capitaine Kim. Tout cela nécessitait une petite mise en scène. Il fallait tout d'abord créer un climat d'insécurité. Bon, ce n'était pas le plus difficile. Un attentat, 10 retraités assassinés dans un atoll du Pacifique, des signes ostensibles de menaces terroristes, le livre de ce bon vieil océan, cette inscription mystérieuse, Pitchy Boy, qu'il n'était pas difficile d'interpréter. Puis, l'évacuation du stade Maracanã lors de l'événement le plus regardé sur toute la Terre. On ne pouvait pas imaginer plus spectaculaire.
10h59. Artem avait uniquement lié les jambes de Victor Kapp, puis posé son TPC ensanglanté sur la table basse du salon, comme une tentation. Il avait lancé 3 serviettes au tueur pour qu'il puisse continuer d'éponger son moignon. Cléo s'était écroulée sur une chaise, 2 mètres derrière le commandant Akinis. Il ne lui avait pas demandé de sortir. Après tout, elle en savait autant, voire plus que lui. Artem, sur le fauteuil, face à Kapp, jouait avec son couteau Santoku. Par la fenêtre donnant sur Piccadilly Circus, des mannequins métissés défilaient sur les enseignes lumineuses géantes pour vanter des bracelets de TPC en or massif ou incrustés de diamants. Big Ben sonna 11 heures.
Vous connaissez Galiléo Nemrod?
C'est,
fit Victor Cap avec un détachement étrange.
C'est un vieil ami.
Artem tentait de conserver son calme. Il devait en apprendre davantage. Ce tueur mentait peut-être, ou bluffait pour gagner du temps. Il paraissait faire des efforts considérables pour masquer sa douleur. Le commandant était conscient qu'avec sa blessure, l'hémorragie, Cap pouvait perdre conscience à tout moment.
On ne refuse rien à un vieil ami, n'est-ce pas?
Articula Victor Cap entre sourire et grimace.
Mais, en l'occurrence, nous avions un contrat. Je l'ai déjà expliqué à la fille et son journaliste avant que vous ne vous invitiez dans notre discussion.
Une remise de peine.
J'agissais pour le bien de l'humanité. Bon, vous serez d'accord avec moi si c'est le président qui me le demandait.
Cap ne ment pas, pensa le commandant. Cap vide sa conscience autant qu'il se vide de son sang. Parce que son commanditaire l'a trahi et a voulu le faire exécuter. Le président. Galiléo Nemrod. C'était tellement énorme.
Oh, ce n'était pas un travail compliqué, expliqua Khan. Je crois que si le président m'a choisi, c'est à cause de mes compétences d'électronicien, bien sûr, mais aussi de ma passion pour les modes de transport anciens. Le président m'a simplement demandé de récupérer une dizaine de places pour la finale Brésil-Allemagne à Maracanã, dans l'espace privé de retraités allemands. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne crois pas que Galiléo Nemrod s'intéresse beaucoup au foot, moins que moi en tout cas.
Un sourire défigura le visage du tueur blond. Il souffrait sans rien dire, en martyr.
Il avait précisé que je ne devais laisser aucun témoin derrière moi et déposer deux indices. Ce mot, Pichipoy, gravé dans un palmier, et ce livre, Droit du sang, dans un des tiroirs d'une des tables de chevet.
11h04.
« Ne vous endormez pas, capitaine Kim, »
fit Nemrod en haussant légèrement la voix.
« Je vais essayer de faire vite, d'être plus passionnant aussi, de vous épargner les détails techniques. »
Misha avait l'impression que tout ralentissait. Le mouvement du balancier, les paroles du président, ses pas sur le parquet verni de la chambre du château, le goutte-à-goutte dans ses veines aussi, telle une fin d'averse, les dernières larmes d'une pomme de douche une fois le robinet fermé. Ce poison qui l'assommait.
Il n'a pas été difficile de manipuler Lilio de Castro. Je l'ai choisi parce qu'il était doué, très doué, charismatique, romantique, même s'il souffrait de quelques défauts chroniques. La lâcheté, évidemment, le trait commun de la quasi-totalité des intellectuels, bien qu'il s'en défende avec une sincérité touchante, et l'ambition, surtout. Lilio de Castro aurait tout donné pour être une sorte de messager divin délivrant aux terriens un secret révolutionnaire, un ange Gabriel laïque. Je me suis arrangé pour lui donner les bonnes informations quand il le fallait, pour qu'il se trouve au bon endroit au bon moment, pas très loin de Tetamanu, puis dans le stade Maracanã, qu'il puisse entrer en contact avec Tan Prao aussi, et disposer de rumeurs un peu consistantes sur ses mythiques assignés. Seule l'institutrice, Cléophée Loisel, n'était pas prévue au programme. En définitive, elle ne s'est pas révélée gênante, bien au contraire. Pour l'épater, De Castro a eu plus encore envie de jouer au coq qui réveille l'opinion mondiale en pleine nuit. Et votre cher commandant a mis plus d'énergie encore pour retrouver vivante cette pauvre mais fort charmante innocente.
Un réflexe nerveux repoussa le poison qui endormait inexorablement Misha. Un coup de sang. Ainsi Galiléo Nemrod avait tout programmé, tout contrôlé, tout deviné, jusqu'à son attirance pour Artem et sa jalousie envers cette Cléophée. La policière hésita à réagir, puis choisit de se taire. Elle devait laisser le président parler, l'écouter, tout écouter en luttant de toutes ses forces pour conserver les paupières ouvertes.
« La seconde étape, » poursuivit Nemrod, « fut aussi simple que la première. Il suffisait d'éliminer cette ordure de Tan Prao, bon débarras, pour que Lilio de Castro se retrouve comme par miracle en possession de 300 TPC clandestins et de renseignements précis sur les assignés. Je ne doutais pas une seconde de son envie irrépressible de les rencontrer et de leur offrir ses services pour s'évader, en échange d'une exclusivité. Pour cela, pour que les assignés acceptent de prendre le risque d'enfiler à leur poignet un TPC, eux qui, plus que quiconque sur cette terre, s'en méfiaient. Il fallait que Lilio soit sincère. qu'aucun assigné ne puisse flairer le piège. Il fallait que la tentation soit irrésistible et que le tentateur soit suffisamment convaincant pour pousser à sortir de leur douce retraite ces pacifistes velléitaires.
Nemrod attisait à nouveau les cendres de la cheminée. Cette fois, Misha ne put s'empêcher de s'exprimer.
« Si ce ne sont que des pacifistes velléitaires, pourquoi tout ce cirque? Pourquoi les faire passer pour des terroristes ?»
Une nouvelle bûche, quelques brindilles, les flammes s'élevèrent, plus puissantes que jamais. Le balancier de cuivre rougissait. 11h10.
Voyez-vous, capitaine Kim, Karl Marx n'était qu'un intellectuel velléitaire. Et pourtant des dizaines de millions d'innocents ont péri au nom du communisme. Adam Smith n'était qu'un philosophe de salon, et pourtant combien de morts, de crimes, de famines au nom du capitalisme. La planète entière a failli rester. Vous êtes trop jeune, capitaine Kim, mais j'espère vous convaincre. Vos petits-enfants vivront peut-être sur une terre où le risque de nationalisme sera complètement écarté, où les guerres d'antan seront regardées comme des affrontements de tribus préhistoriques. Mais nous ne sommes pas encore parvenus à ce niveau de conscience planétaire et pacifique. Il faudra des siècles, m'entendez-vous ? Des siècles de bonne volonté. J'espère compter sur la vôtre, quand je vous aurai tout révélé.
11h15. Le commandant Akinis avait improvisé un garrot à l'aide d'un lacet de l'une des dizaines de baskets U-Bolt exposées dans la salle de fitness. Le sang au poignet tranché de Victor Kapp avait presque cessé de couler. Toujours assis dans le canapé, Kapp fixait le TPC ensanglanté posé à moins de 2 mètres de sa seule main valide. Artem, face à lui, se tenait prêt à intervenir. Cela faisait partie de sa mise en scène. Rester concentré, jouer avec le tueur, lui laisser un espoir, l'obliger à miser, à parler, à ne pas trop regarder la femme dans son dos, Cléo, qui ne perdait rien des aveux du type qui venait d'égorger son petit ami. Était-il son petit ami, d'ailleurs ? Il était impressionné par la force tranquille qui se dégageait de cette femme d'apparence si fragile. Rester concentré, ne pas laisser ses pensées s'éparpiller, se focaliser sur une révélation. Sidérante, si Kapp disait la vérité. Le président Galileo Nemrod était à la tête depuis le début de l'ensemble du complot. Kapp réclama un verre d'eau, le vida, avant de continuer de parler.
« Le second des 3 contrats, fit-il en reposant le verre, était de me rendre au Cachemire pour tuer Tan Prao. Et comme sur Tetamanu, de graver Pichipoy sur un arbre près de son palace, de déposer un exemplaire de droit du sang, et de ne laisser aucun témoin derrière moi. Ça m'a demandé un peu plus de temps. Ce trafiquant était méfiant, son palais bien gardé. J'ai passé des heures à faire le guet dans la neige. »
Le tueur tourna ses yeux bleus vers Cléo.
« C'est là que nous nous sommes croisés, mademoiselle. Je suis désolé, vous faisiez partie des témoins à éliminer. Du moins, je croyais. Si ça peut vous consoler... Le président m'a passé une sacrée soufflante quand il a appris que je vous avais balancé dans le précipice avec le journaliste. Visiblement, il tenait à vous. Enfin, sans vouloir vous vexer, il tenait surtout à lui,